cube.radio.
Mario Dumont et Vincent Desureaux, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
Cube Radio.
Alors Vincent, dans les nouvelles, le président Joe Biden qui est revenu aujourd'hui avec... On avait des prédictions, on a passé 400 000 morts aux États-Unis cette semaine, on avait des prédictions comme pessimistes qu'il y a un autre 100 000 qui va s'ajouter, qu'on va atteindre 500 000. Mais M. Biden a un scénario encore plus pessimiste.
Oui, dans les dernières minutes se terminait un point de presse du tout nouveau président Biden qui avait de sombres perspectives là, pour les États-Unis. Il en avait quand même parlé beaucoup là, sur le fait qu'on était dans un hiver sombre et que ça allait être difficile. Mais selon lui, les États-Unis auront, à la fin de tout ça, là, il dit même bien au-delà de 600 000 morts.
Mais là, on dirait qu'avec le rythme de vaccination, je suis quand même étonné. 500 000, j'y arrivais là, avec les modèles. Je me disais, à un certain point, il va y avoir la moitié de la population vaccinée et plus.
Parce qu'on arrive à pratiquement à 100 000 morts par mois, là, à un rythme actuel.
Non, c'est bien.
Alors, c'est deux mois.
C'est-à-dire qu'à 4 000, non, même plus, à 4 000 par jour...
Tout à fait. C'est qu'on n'a pas 4 000 tous les jours.
Non.
Une moyenne de 3 500.
T'as raison, 100 000 par mois.
Hier, c'est
incroyable.
Hier,
100 000 morts par mois.
C'est 4 300 morts hier aux États-Unis. On voit le nombre de cas baisser. Alors, on peut s'attendre à ce que ça baisse effectivement. Alors, on aura peut-être un autre mois au-dessus de 100 000 morts. Et ensuite, ça va descendre. Mais on se voit facilement s'ajouter 200 000 morts. C'est sûr que peut-être pour M. Biden, on veut pas non plus être trop optimiste. Pour essayer de faire mieux. D'ailleurs, on semblait vouloir faire ça aussi avec la vaccination en disant 100 millions de vaccins en 100 jours. J'entendais plusieurs experts aujourd'hui
qui disaient... Tu as vu qu'il a fait le bon vieux coup quand même de ce que mon prédécesseur m'a laissé, c'est pire que ce que je pensais. On l'a vu souvent en politique,
oui,
en disant là sur la vaccination... On essaie quand même d'arriver à notre 100 millions en 100 jours, mais là, j'ouvre les livres, je me rends compte qu'il n'y a pas de plan, que Trump a laissé ça tout à l'envers.
Oui, alors que quand même dans la réalité, plusieurs experts disent on va 100 millions, on espère être bien au-delà. Là. Même certains disaient 150, même 200 millions, parce qu'on va prendre un certain rythme. Évidemment, ça va
dépendre
de la
production. Parce que eux, du Pfizer, là, on parle beaucoup, nous autres, au Canada, comme une espèce d'impossibilité, parce que à l'usine de Belgique, celle qui nous fournit, il y a du retard, puis... Mais Pfizer, comme compagnie globale, a produit aussi plein de vaccins aux États-Unis. Mais ils restent aux États-Unis.
Oui, dans leur usine de Malakazu, c'est un nom.
Je sais pas où. Hein?
Où on produit énormément. Là. D'ailleurs, le problème présentement, c'était plus dans l'administration des vaccins que la production. Mais éventuellement, là, on va donner des vaccins. Alors, il faudra que la production suive. Mais on parlait entre autres de Johnson & Johnson. On s'attend à des chiffres la semaine prochaine. Un vaccin à une dose. Alors, on prévoit probablement y aller plus. Alors, c'est peut-être quand même une prévision assez conservatrice ou prudente. Là, 100 millions de vaccins en 100 jours. Mais M. Biden a dit, au bout du compte, là, ce que ça veut dire, nous sommes dans une urgence nationale et nous devons agir comme dans une urgence nationale. Nous devons bouger rapidement. Alors qu'aujourd'hui, il a signé plusieurs décrets encore reliés à la fois à la pandémie, mais aussi aux effets économiques. Donc, pour essayer d'aider les familles, entre autres, sur des programmes d'assistance alimentaire, également protéger les travailleurs qui refuseraient de travailler dans des conditions difficiles, par exemple. Des conditions dangereuses et s'assurer que toute l'aide arrive rapidement. Alors que je vous le disais, c'est 4 300 morts hier, 190 000 nouveaux cas, c'est élevé, mais pour ce qui est des cas, c'est en légère baisse. Les hospitalisations étaient aussi en légère baisse aux États-Unis. Alors, il y a peut-être un peu de lumière au bout du tunnel.
Du lobbying qui se fait pour destituer Donald Trump. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même des républicains du Sénat, il y a un lobbying en faveur de la destitution.
Oui, c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent à la politique quand même. Tout le grenouillage, le jeu de coulisses. On est là-dedans là, en ce moment, vraiment profondément aux États-Unis. À savoir, dans le Parti républicain, qu'est-ce qu'on fait avec la destitution de Donald Trump? Selon CNN, qui a parlé avec plusieurs républicains influents, dont des gens qui travaillaient vraiment près de Donald Trump dans l'administration Trump feraient du lobbying intensif dans le but de convaincre des sénateurs de voter pour la destitution de Donald Trump. Le premier là à être qu'on veut influencer, c'est Mitch McConnell, évidemment le sénateur
qui a
en
déjà
chef.
L'air à pencher que tous ses propos vont dans le sens de la destitution de Trump là.
Tout à fait, d'ailleurs certaines sources à CNN disaient que Mitch voulait que Trump s'en aille là. Il voulait plus de Trump, que c'était pour son intérêt politique, son intérêt à lui, autant que pour l'intérêt du parti. Mais la question, comment on se rend là, dans le but d'essayer de de gérer l'image aussi, donc de se débarrasser de Trump, mais en perdant le moins de votes possible. On sait que les républicains ont besoin de 17 votes au Sénat pour s'associer aux démocrates pour destituer Trump. Alors on sait que ça grenouille présentement. Alors d'ici la semaine prochaine, c'est possible que ça commence dès mardi, possible que ça soit reporté un peu, mais on aura un bon show quand même là.
Non, ça va être quelque chose.
C'est plus calme là, sous l'ère Biden, mais le procès, deuxième procès pour de M. Trump, ce sera intéressant.
Mais c'est parce que
ensuite.
Le premier procès, on connaissait l'issue. Là.
Oui.
On savait que c'était un spectacle des démocrates pour mal faire paraître Trump. Il y avait objet de destitution, mais moins grave qu'encourager une institution. C'est moins parce que c'était un coup de téléphone à l'Ukraine. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'était plus compliqué. Qu'est-ce qui t'arrivait exactement? Mais lui, il disait que c'était un perfect phone call.
Oui, c'est plus facile pour les impliqués de faire passer ça comme du niaisage politique puis un show.
Alors que là, les gens ont vu les images au Capitole, les policiers se faire attaquer, etc. Les parlementaires étant en danger, ouais. Les élus étant en danger.
Mais les sénateurs sont eux-mêmes des témoins de ce procès-là. Ils étaient là.
Ils ont eu peur.
Donc oui, ce sera un procès fascinant à suivre. Est-ce qu'on donnera du temps aux avocats de Donald Trump de se préparer? Est-ce que Trump va aller se faire défendre par Rudy Giuliani?
Non, ça a l'air que j'ai pas
il
le
a changé,
nom.
Ouais, parce que
j'ai pas le nom. Non, il y a ça là qu'il y a un avocat de premier plan. Là.
Bon,
un avocat de premier plan crédible cette fois-ci.
Parce qu'on a dû lui conseiller chaudement de
Parce que il perdrait. Les gens peuvent se dire, il est plus là de toute façon. Non, il perdrait beaucoup là, d'avantages, de prestige. Son nom serait ni plus ni moins qu'enlevé quasiment de la liste des présidents. Il y aurait un astérix pour l'éternité à côté de son nom comme étant un président qui a été destitué après coup. Les privilèges financiers, les invitations protocolaires, tout ce qui est réservé à un ancien président, il ne l'aurait plus. Il ne serait plus un ancien président américain. Il serait un président destitué.
Ce qui aide aussi, ce qui nuirait à sa relance économique, là, parce que
oui,
ça aussi,
en plus.
Ça aiderait pas ses finances à M. Trump.
Alors, est-ce qu'on aura ou pas des Jeux olympiques? Il y a eu une espèce de grosse rumeur qui a circulé, l'effet qu'on laisserait tomber les Jeux olympiques de Tokyo, qui étaient déjà reportés d'un an. Et là, le Japon a un peu mis un holà.
Oui, The Times of London, donc quotidien londonien, qui, citant des sources gouvernementales au Japon, disait au gouvernement japonais, là, on ne l'a pas dit encore, mais on abandonne. On a abandonné sur les Jeux olympiques. Ça n'aura pas lieu en 2021. Ça fait grand bruit, ça fait le tour du monde, cette nouvelle-là, et rapidement à la fois le comité international olympique et les organisateurs des Jeux de Tokyo ont tenu à dire, au contraire, c'est pas vrai, on va de l'avant, ben, du moins on va de l'avant pour l'instant, là, on est en discussion, mais on voulait vraiment rassurer sur le fait qu'on espère et on souhaite fortement et on se bat pour que les Jeux de Tokyo aient lieu. Alors cette rumeur-là, selon eux, est totalement fausse. Il y a quand même, je sais pas ce que tu penses, parce que les Jeux olympiques, ce sera à la fin de l'été, quand même fin juillet. Et je voyais aujourd'hui la NFL qui donnait un peu ses détails pour le Super Bowl. Tu as un Super Bowl avec un stade avec 20 000 personnes à l'intérieur. On a du hockey, on a du baseball, on a de la F1.
Non, moi je pense
rendu
qu'on
là,
peut faire les
en juillet
Olympiques.
Les Olympiques. Je pense qu'on peut quand même.
C'est juste
se donner
une grosse logistique, la quarantaine, les athlètes, puis ça chacun dans leur pays. Mais à mon avis, le public, ça risque d'être... Ben, on va voir. Là,
on a déjà dit que c'était possible de le faire sans public, que surtout les droits de télévision,
de télé,
c'était...
Ça.
Et tant qu'avoir payé 25 milliards, t'es mieux d'avoir un événement pas public que pas avoir d'événement du tout.
Non, puis probablement que la perte de vente de billets versus... Parce que une des factures épouvantables des Olympiques, c'est les coûts de sécurité. Mais là, si t'as pas de public, là,
tu vas
protéger les athlètes et tout ça, mais tu vas avoir moins de coûts de sécurité. À mon avis, c'est gérable. Ben moi, je souhaite qu'il y ait des Olympiques, sincèrement.
Ben aussi, on protège déjà des sportifs millionnaires. Ça reste des sportifs amateurs. Je comprends que tu veux pas faire passer nécessairement les jeunes avant les vieux sur le vaccin, mais on sera rendu au mois de juillet. Des vaccins, ça se peut qu'on soit là...
Il n'y aura plus la rareté qu'il y a aujourd'hui.
Il n'y aura plus de rareté. On sera rendu dans plein de pays à vacciner justement les jeunes. Si on est capable de les vacciner, les mettre dans un village olympique sécuritaire, on les envoie faire leur compétition. Je pense que pour le bien-être en général, là, un peu partout dans le monde, ce sera intéressant de les voir et de faire la promotion du sport. Alors j'espère bien qu'on n'abandonnera pas. C'est du moins ce qu'ils ont dit aujourd'hui.
Régis Labeaume, qui est frustré des délais dans son dossier de tramway, en fait, là, qui pense qu'on a oublié Québec.
Ouais, Monsieur Labeaume était marabout aujourd'hui, pas mal, frustré, tanné.
Je pense qu'il a raison un peu quand même.
Mais sur le fait que le projet de tramway n'avance pas présentement à Québec, il dit d'ailleurs, on dit qu'il était clairement pas pas heureux de tout ça et des négociations qui sont en cours entre lui et François Bonnardel, le ministre des Transports. Il disait, M. Labeaume, je vois toutes les annonces qui se font à Montréal. C'est des belles annonces. Tout le monde veut le prolongement du REM chez eux. J'ai l'impression qu'il n'y en a que pour Montréal actuellement. On dirait que c'est pertinent à Montréal, mais que ce l'est moins à Québec.
Là-dessus, il n'y a pas d'annonce à Montréal. Il y a le REM qui se fait parce que c'est la Caisse de dépôt qui le pilote. Mais tout ce qui relève du ministère des Transports, il y a du placotage qui se fait à Montréal comme à Québec, mais il n'y a pas d'annonce de la ligne bleue du métro. Ça,
C'est vrai que les projets du gouvernement...
C'est pas plus à Montréal qu'à Québec.
Bon, mais ils souhaitent qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, parce qu'on a peur du côté de M. Labeaume de perdre éventuellement le financement au fédéral. Carrément, des partis un peu partout à travers...
Je pense qu'il voudrait avoir des réponses plus vite pour prendre sa décision plus vite et se représente ou pas.
Tu as tout à fait raison, alors qu'on approche des élections. Et lors d'un point de presse distinct organisé un peu avant par la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, on lui a posé la question en disant qu'on n'avait rien de précis à annoncer là-dessus sur le tramway, mais que les discussions se poursuivent.
Une petite vite sur Boeing?
Oui, Boeing annonçait aujourd'hui que, du moins, on promet chez Boeing des avions sans pétrole, donc qui fonctionnent sans pétrole, d'ici 2030. Pas des avions électriques, mais des avions qui fonctionneraient avec du biocarburant.
Donc, des résidus forestiers ou alimentaires ou...
Fait que déchets végétaux, déchets domestiques recyclés, huile de cuisson usagée. Honnêtement, Mario...
Boeing s'allie avec McDo et KFC.
Rempli un 777, là, d'huile usée.
D'huile à patate, non?
Je suis pas sûr que tu te rends... en Chine, là. Honnêtement, j'ai trouvé ça un peu loufoque. Et il faut dire, c'est Boeing, là. Ils font des avions pour vrai. Et on a fait des premiers vols avec des mélanges kérosène biocarburant déjà depuis plus d'une décennie. Mais je pense que le problème, c'est pas de réussir à faire voler un avion au biocarburant. C'est, écoute, faire un 777, je vous donne cet exemple-là. Combien de litres à l'heure?
J'ose pas y penser.
8000
litres à l'heure.
8000 litres à l'heure. Alors, du biocarburant, c'est beau pour faire rouler une tondeuse ou une petite voiture deux places. Faire voler le milieu de l'aviation au complet sur du biocarburant. Je sais pas combien de quantité de petits chips de bois faut que tu utilises.
Non, mais là, quand tu dis Boeing, c'est peut-être un prototype, là.
Oui, mais on dit des avions passagers. Je comprends que ce sera peut-être pas les grands, mais on promet des avions passagers sans pétrole d'ici 2030.
Donc, tu t'inscris dans les sceptiques.
On se reparlera en 2030. Je pense qu'on sera très, très loin
de ça. C'est noté. Et tu veux me parler de singes brillants, finalement?
Je termine là-dessus. Ça fait la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps de se parler de cette nouvelle-là, et qui finalement arrive au Canada. Là, je la voyais partager un peu. J'ai trouvé intéressante. À Bali. Es-tu déjà allé à Bali?
Non.
En Indonésie, au temple Uluwatu, où il y a plein de singes macaques. Des scientifiques de l'université de Lethbridge en Alberta ont fait une étude pour se rendre compte que les singes macaques ont développé une technique. Ils sont capables de... Enfin, ils vont te voler des éléments, là, des lunettes de soleil, un iPhone et autres. Et ils vont être capables d'aller les marchander avec des touristes ou des employés du temple.
Alors, à l'autre terme, ils vont te voler tes lunettes de soleil, puis ils vont les échanger à quelqu'un contre une banane ou une mangue.
Sauf que, pas seulement contre une banane ou une mangue, ils ont remarqué que les plus vieux singes connaissent la valeur des éléments qu'ils volent. Donc, par exemple, pour, je comprends, une vieille paire de lunettes LED, tu pourras avoir une banane. Si, par contre, j'essaie de t'échanger un iPhone, Mario, ça va te prendre plus que ça. Deux mangues, une banane, des cachous, amène ça. Et que le singe, des fois, va même avec des employés qui connaissent un peu le stratagème.
Il va bargainer.
Ben, en fait, il va aller porter sa banane, il va revenir, mais il te ramènera pas tout de suite l'outil. Il va te le donner une fois qu'il juge que tu lui as assez donné pour faire l'échange.
Donc, il y a une notion de prix. Là.
Une notion de prix et une notion aussi de protéger l'objet. Donc, on dit les singes vont faire très attention aux iPhones qui viennent de voler parce qu'ils savent qu'il vaut plus cher en bon état que de tout le briser ou de le traîner partout. Et que particulièrement en vieillissant, les singes adoptent vraiment des comportements plus raffinés, connaissent le prix des objets et vont ensuite, et même toi le touriste, ils vont, tu sais, si tu viens de te faire voler tes lunettes, tu vas vouloir y reprendre. Mais là, il va te faire signe, là, donne-moi de la bouffe. Puis il va falloir que tu en donnes assez pour qu'ils disent, ben parfait, on a un bargain correct et qui va te redonner
c'est
ton...
C'est sérieux, ça?
C'est sérieux. Ben, c'est l'université albertaine qui a confirmé ça en regardant des centaines de vidéos.
Parce que c'est des singes, il y a des touristes qui passent, il faut dire ça.
Ouais, c'est un milieu où eux, les singes vivent avec les touristes tous les jours et ont été capables de comprendre ce système-là de valeur pour être capables d'être récompensés.
Ça dit aussi une autre chose, là. C'est que le touriste est assez épais en général qui devient prévisible, même pour des singes. Là.
T'as tout à fait raison. Regardez vos objets de valeur dans votre sac banane.
Ça, c'est ma conclusion de l'université, Mario.